Bienvenue à toi sur le podcast Vie d'infirmière, le podcast qui explore et partage les évolutions professionnelles et les parcours de vie d'infirmière. Je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice du site Charlotte K, un blog créé par des IDE et pour des IDE qui compte aujourd'hui plus de 50 000 lecteurs chaque mois. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Si tu nous découvres pour la première fois, le podcast Vie d'infirmière, c'est notre rendez-vous hebdomadaire où je te présente des évolutions possibles à partir de ton diplôme d'État et où j'invite également des infirmières et infirmiers à témoigner de leur parcours professionnel. On balaie toutes les possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit d'évoluer dans les soins infirmiers, évoluer dans le paramédical ou le bien-être, ou en quittant complètement le monde du soin. J'explore de manière très large car j'ai eu la chance de rencontrer des infirmières et infirmiers incroyables. Alors mon objectif ici, c'est de te faire découvrir leur parcours et de t'inspirer en te partageant les clés de l'évolution professionnelle des IDE. Alors, pour cet épisode, j'ai choisi d'inviter Noréline, qui est infirmière de formation et qui est désormais Community Manager. Je ne sais pas si ce métier te parle, mais je pense que tu vas avoir plaisir à le découvrir et à découvrir l'entretien que j'ai eu avec Noréline. Bonjour à toi Noréline, bonjour à tous, je suis très très contente d'accueillir sur ma chaîne. Noréline, comment tu vas déjà avant de commencer?
Ben écoute, ça va, ça pourrait aller encore mieux, c'est les vacances, on a plein soleil en tout cas sur Paris, donc moi je dis toujours j'ai le soleil dans le cœur, donc nickel.
Top, ça marche. Noréline, on va parler aujourd'hui un peu ton parcours et de ce que tu fais actuellement. C'est un petit peu différent des reconversions qu'on a d'habitude avec les infirmières et voilà, c'est une reconversion qui est un peu atypique, enfin atypique, c'est pas non plus quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est un métier qui est émergent en tout cas, que peu d'infirmières connaissent et dont tu vas nous parler du coup aujourd'hui. Alors merci d'être là pour en parler déjà. Est-ce que tu peux me dire là actuellement, donc tu es encore infirmière et tu es également community manager, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc, pour raconter un petit peu mon parcours, je suis dans les soins depuis 2008. Donc, j'ai commencé en tant qu'aide-soignante de 2008 jusqu'à 2013, où j'ai intégré l'école d'infirmière. Donc, je suis vraiment restée dans le même parcours de soins et de formation. Et du coup, bah, après la crise Covid, ça me trottait déjà un petit peu de m'orienter vers autre chose depuis l'arrivée de ma fille. Je pense que dans la tête des infirmières, par rapport aux horaires qu'on peut avoir, qui sont, ben, on va dire, soit très tôt ou soit très tard, ben, l'arrivée d'un enfant, ben, en fait, nous fait nous poser beaucoup de questions. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime? Donc, on a fait le ikigai, tout ça. Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi je suis faite? Hormis les soins, parce que finalement, on va se dire, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Et en fait, je ne me vois pas faire autre chose. Je pense que ça, tu as dû l'entendre beaucoup de fois. Je ne me vois pas faire autre chose. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir un autre poste dans un autre établissement que l'hôpital, donc qui était très confortable au niveau des horaires, mais où aussi j'avais pas mal de temps pour réfléchir. Et du coup, là, je me suis dit, non, il faut absolument que je trouve quelque chose pour combler ce temps. Et en même temps, pour pouvoir apprendre, parce que j'ai toujours besoin d'apprendre plein de choses. Donc, j'ai commencé par une formation dans le marketing digital de manière globale. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai voulu vraiment, ben, cet entonnoir m'a ramené tout doucement au métier de community manager, donc qui est un métier vraiment en plein développement depuis la crise sanitaire, donc qui consiste tout simplement à aider les entreprises, les entrepreneurs à se développer sur les réseaux sociaux et à avoir une communication de qualité. Top. Voilà.
Merci pour la présentation. Je ne sais pas trop si parmi ceux qui nous écoutent, bah voilà, vous connaissez ce métier, donc on appelle ça CM aussi, Community Manager. Ah. C'est vrai que ce qui fait envie, ce qui peut faire envie, c'est le côté hors des soins, quand on a envie de quitter comment le soin, quitter le stress aussi. Alors peut-être que tu as un stress un petit peu différent, mais quitter le stress, on va dire, vital. Et j'ai parfois des infirmières qui me disent, moi j'ai envie de pur ce stress-là, en fait, d'avoir toujours des vies entre les mains, en fait, quasiment, de toujours rentrer chez toi et de cogiter sur tout ça. Le côté aussi à ton compte, parce que j'imagine qu'on est très souvent à son compte en tant que CM. Et ce côté aussi, voilà, un peu plus léger, en fait, un peu plus léger avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux déjà nous décrire la formation ? Quelle formation il faut faire pour devenir CM ? Est-ce qu'il y a une formation spécifique ?
Alors, pour devenir community manager, il n'y a pas forcément une formation ou un chemin. Il y a des centres de formation de community management qui se développent beaucoup en ce moment. Soit on a accès à la formation en ligne, donc on a une vidéo avec quelqu'un qui nous raconte des choses et en fait, on absorbe. Ou sinon, on a cette formation où on a un peu de présentiel, un peu de formation aussi en ligne. Où on a tout simplement une formation, ce qu'on appelle formation en ligne, mais de l'autre côté, c'est un coaching. Donc, on a un formateur qui est lui-même soit community manager ou social media manager qui nous forme, accompagné aussi de d'autres community managers qui sont déjà bien immergés dans le métier et qui en forment d'autres. Alors, moi, la formation que j'ai faite au tout départ, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation sur le marketing digital vraiment global. Par la suite, ça m'a donné vraiment des points d'accroche pour savoir si je voulais ou pas faire ce métier-là. Et ensuite, j'ai fait une formation avec un groupe de community managers via des coachings, via des groupes de parole. On faisait des hot seats, on présentait des situations. Et c'est tout simplement comme ça que je suis arrivée dans ce métier-là. Je n'ai pas fait une formation dans un centre. J'ai appris énormément de choses de par moi-même. Et du coup, avec ce groupe, cette communauté de community managers, où j'ai vraiment appris tout ce que je sais aujourd'hui.
Ok, c'est canon. Voilà. Du coup, une CM, ça va accompagner donc, les entreprises sur donc, tous les réseaux, c'est-à-dire sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc.
Tout à fait. C'est ça ? Exactement.
Est-ce que du coup, il faut être expert ? Enfin, est-ce qu'en général, les CM sont experts, par exemple Instagram, ils font que l'Instagram, ou est-ce que parfois, ils font plusieurs réseaux est-ce que du coup, quand tu t'affiches, tu dis « je suis CM pour Facebook, Instagram, LinkedIn », par exemple, comment ça marche par rapport à cette spécialisation derrière ?
Alors, les CM, ils peuvent choisir de faire plusieurs réseaux, hein, bien évidemment. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup parce que chaque réseau a son algorithme, chaque réseau a sa cible. Donc, pour moi, personnellement, ça fait beaucoup, d'où le fait que moi, je me sois spécialisée sur Instagram. Dans mes accompagnements, si la personne, par rapport à sa cible, puisqu'on travaille toujours en fonction de la cible de l'entreprise pour savoir où elle se trouve, si c'est pertinent d'y être, parce qu'on dit en même temps que être partout, c'est être nulle part en même temps. Donc, on travaille vraiment sur le positionnement de cette personne, sur son client cible pour savoir où elle se trouve. Généralement, moi, je propose Instagram et un petit peu de Facebook, même si Facebook, on peut dire que c'est un petit peu old school pour les vieux. Mais il y a des gens, tout simplement, leur cible se trouve là-bas. Donc, on y travaille un petit peu aussi. Mais les CM, ils peuvent tout à fait se spécialiser sur un réseau, justement, pour avoir cette expertise un peu plus pointue sur un réseau en particulier.
Ouais. C'est vrai que moi, personnellement, je ferais plus confiance à quelqu'un qui me dit « je suis expert Instagram » que quelqu'un qui me dit « je suis expert sur Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest
on et, peut pas, je pense.
Et TikTok ».
On ne peut pas. Ouais.
Donc, écoute, super. En termes de coûts de formation, combien il faut prévoir si tu te dis, j'ai envie d'être CM, quel coût de formation, quelle intensité aussi ? J'imagine qu'il y en a plein de différentes, en fait, donc ça doit être difficile comme, comme réponse.
Et ça, c'est une question qui est assez compliquée. Je vais dire, moi, combien j'ai dépensé pour ma formation en marketing digital ? J'ai dépensé plus de 2000 euros. Ok. Juste comme ça, j'ai dépensé plus de 2000 euros. C'était un forfait mensuel à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et ensuite, pour la spécialisation dans le community management, à l'époque, quand j'ai commencé, ça fait un an et demi, le groupe avec lequel je travaillais, pareil, proposait un petit forfait. À l'époque, c'était vraiment pas cher. C'était 47 euros par mois. Aujourd'hui, ce même formateur, et sa formation est à plus de 2500 euros pour 3 mois de formation.
Ah, pour 3 mois.
Pour 3 mois de formation avec un coaching assez intensif et une promesse de beaucoup de résultats derrière.
Ok.
Voilà, donc il faut se préparer. C'est vraiment une fourchette. Les prix en centre de formation, je n'ai pas forcément une idée de ce prix-là parce que je n'ai pas fait ce parcours-là. Ouais. Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'était plus de 2000 euros dans la formation de marketing digital global.
Ok. Donc, on peut tout à fait travailler à côté, comme tu le fais toi, et se former en temps pour devenir CM derrière.
Tout à fait, c'est ça. Ok. Exactement. Moi, j'ai commencé la formation, on va dire, début 2020. C'était avant vraiment la crise. Ouais. Et en fait, j'ai été coupée en plein vol parce qu'il fallait repartir dans les services de soins pour faire mon métier de base infirmière. Quoi. Okay. Et j'ai dû reprendre vers la fin de la crise, en fin d'année 2020. Voilà, tout ça pour pouvoir travailler sur la vision de mon entreprise que je voulais mettre en place. Et puis, basculer en 2021 pour faire mon immatriculation. Tout ça, vraiment faire les choses dans les règles de l'art.
Ok, canon. Canon, super. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les tâches d'une CM? Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, on a l'impression que c'est juste publié sur... du coup, on va parler d'Instagram peut-être. Publié sur Instagram, mais en fait, j'imagine qu'il y a plein de choses à faire derrière, en fait, quand t'es...
Ah oui. Alors, c'est pas aussi facile que ça peut laisser paraître, parce que même, on va prendre un exemple, dans la prise en charge d'un compte. Bien avant de commencer à publier sur les réseaux sociaux, hein, on va, je vais prendre l'exemple, voilà, j'ai une cliente qui souhaite avoir mes prestations, mes services et tout. Donc, on a tout d'abord un appel, ce qu'on appelle l'appel découverte. Ouais. Donc, pour que la personne puisse nous parler un petit peu d'elle, parler de son entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, pour qui elle le fait, à quel prix, etc. Et ce qu'on met en place ensemble, ça va être, toute la structure pour pouvoir communiquer. Avant de communiquer, on a toute la recherche du client cible, de son positionnement. On a aussi toute la recherche au niveau de l'identité visuelle. Qu'est-ce qu'elle veut faire paraître? Parce que, OK, mettre des photos, ben, ça peut être bien. Mettre des couleurs, ça peut être bien. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement? On va vraiment dans le fond, puisque le but de la communication sur les réseaux sociaux, c'est de se différencier parce que en réalité, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Il y a plusieurs personnes. Donc, on doit créer, en fait, tout un réseau pour pouvoir mettre en place une communication saine. Donc, une fois que j'ai fait ce rendez-vous avec cette cliente, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la stratégie de contenu. Donc, dans cette stratégie de contenu, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, on va avoir toute la partie théorique, on va préparer le client cible, on va savoir aussi sur quelles sont les thématiques qu'on va aborder sur le compte. Aujourd'hui, je m'occupe des professionnels de santé et de beauté. Donc, on va savoir de quoi on va parler sur le compte. Quels sont les objectifs de notre présence sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne peut pas être là pour être là.
Oui.
On a vraiment des objectifs. On veut donner des conseils, on veut inspirer, on veut divertir, on veut éduquer de par notre communication. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle les piliers de contenu. Donc, ces fameuses thématiques que j'appelle la boîte en carton. Ça veut dire c'est tout ce dont on peut parler.
Okay.
On va pas le reste, ben ça nous intéresse pas, et on va aussi estimer que ça n'intéresse pas spécialement notre cible parce qu'ils sont venus avec un intérêt bien précis.
Okay.
Donc voilà, on aura cette première partie. Ensuite, l'identité visuelle, la mise en place du calendrier éditorial, c'est que on va pas se dire je réfléchis aujourd'hui ce que je vais poster tout à l'heure. On va l'anticiper et chaque poste aura un objectif et on va pouvoir le vérifier avec des statistiques, etc. Voilà, on va dire, grosso modo, la partie, on va dire, qu'on ne voit pas.
Ouais.
Et une fois qu'on a mis en place ce fameux calendrier éditorial, qu'on a validé tout cela, là, on peut commencer à construire ce que tout le monde voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les posts. Donc, on a dans un post, on a le visuel, donc qui peut être une photo, une infographie, ça peut être un carrousel, ça peut être le format qui est très à la mode en ce moment, les reels, des vidéos. Et ensuite, on a la partie texte avec les hashtags et on a toute une stratégie pour pouvoir faire grossir le compte. Donc, on n'oublie pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment du social et qu'on interagit en permanence avec les gens. Hormis de poster sa photo, son texte, ses affaires, en fait, on a toute la partie où on va à la rencontre des abonnés, des potentiels abonnés. Voilà.
Merci pour tout ça, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte en général de tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, toi, personnellement, ce qui te plaît là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui te plaît et peut-être ce qui te plaît un peu moins, pour vraiment que celles qui se disent tiens, pourquoi pas devenir CM puissent se rendre compte aussi des avantages et des inconvénients qu'il y a aussi derrière. Donc ce sera ton point de vue évidemment, parce que c'est aussi le but du jeu. Mais voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu pourquoi tu aimes ce métier en particulier et ce qui est un petit peu peut-être les inconvénients que tu ressens pour l'instant?
Alors moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que de la même façon où dans les soins, en fait, on est proche des gens, puisqu'on travaille avec eux, on a l'impression qu'être community manager, travailler derrière son ordinateur, en fait, que ça nous sépare des personnes. En fait, pour moi, c'est un autre moyen de rentrer en contact avec d'autres personnes, en fait. Le but, au départ, c'était vraiment d'aider les entreprises qui étaient en difficulté. Donc, on faisait je faisais le recueil de données. Je regardais quels étaient les besoins de la personne par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la crise qu'on a passée, comment elle voulait s'en sortir. En fait, je répondais à un besoin qui était là, en fait. Et c'est, pour moi, c'est la même chose que pour la santé. La personne qui vient dans un service ou à l'hôpital, elle a des symptômes, elle a une pathologie et donc elle a besoin aussi de nous. Ce que j'apprécie vraiment là-dedans, c'est l'interaction et le nombre de rencontres que je peux faire avec des gens, mais vraiment extraordinaires et qui n'habitent pas forcément à côté de chez moi. Donc, je trouve ça génial. Et ceux qui habitent à côté de chez moi, je peux aussi les rencontrer. Ouais. Donc, c'est vraiment hyper enrichissant. Humainement en tout cas. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est l'aspect créatif, parce qu'en fait, on peut donner des vies à des idées qui sont parties de rien en fait.
Ouais.
Voilà, vraiment donner vie, donner, apporter un visuel, vraiment créer quelque chose de toute pièce pour pouvoir justement contribuer à ce qu'une entreprise puisse croître. Qui est le moins intéressant, même si tout le monde vante, oui, on peut être digital nomade, etc. En fait, c'est hyper chronophage. C'est hyper chronophage puisque la toute première partie, parce qu'il faut quand même prospecter pour avoir des clients, puisque le contenu à lui-même ne va pas forcément être suffisant pour que les gens, ils arrivent comme ça. Donc, on passe quand même un certain nombre de temps à faire de la prospection. Ça va être, en grosso modo, 30 minutes à une heure chaque jour, si on est vraiment très carré sur le sujet, pour pouvoir faire des visuels, pareil, ça prend du temps. On a tout le temps aussi les entrepreneurs, soit au téléphone, on est en relation avec eux pour être sûr qu'on répond bien à ce qu'ils nous ont demandé. On est un peu l'ombre du chef d'entreprise, en fait, parce qu'il faut qu'on soit tout le temps sûr qu'on met en avant ce qu'ils souhaitent mettre en avant. D'accord, son identité propre, puisque ce n'est pas notre entreprise, donc ce n'est pas à notre image, c'est à l'image de la structure. C'est ce que je trouve le plus contraignant, en fait, c'est le côté chronophage. Et puis, on reste beaucoup assis aussi. Je suis tout le temps assise.
Ouais, ça change.
Mais sinon,
Pardon, ouais.
Exactement. Je sais ce que ça change du fait de cavaler matin, midi, soir, où on n'a pas le temps de boire, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de faire autre chose aussi. Là, pour le coup, c'est pas ça. Hein.
Après,
et en termes de charge mentale, on en a aussi, c'est complètement différent. C'est sûr qu'on n'a pas la vie de quelqu'un entre nos mains. On ne va pas se dire, est-ce qu'on a oublié de donner tel médicament, est-ce qu'on a mis le bon débit, etc. Quand je rentre chez moi, j'entends encore les bip-bip de la réa qui sonne et tout. Enfin, non, on n'est plus dans ça. Mais je pense que quand on fait quelque chose, peu importe la chose, si on y met tout son cœur, qu'on fait les choses bien, on aura toujours une petite voix dans notre tête qui nous dira « Est-ce que tu as bien fait ?» Et nous, encore pire, parce qu'on est très perfectionniste, on doit vérifier. On nous a appris à faire tout un tas de vérifications. Et ça me reste. Je vérifie sans arrêt, plusieurs fois. Est-ce que j'ai bien programmé? Est-ce que c'est bien validé? Est-ce que tout est bien checké, quoi?
Et tu arrives justement à couper un peu, parce que du coup, réseaux sociaux, en général, quand c'est les siens, on a du mal à couper. Est-ce que quand c'est pas les tiens, tu arrives à couper, du coup?
J'arrive pas forcément à couper, hein. Franchement, même si je me dis, il faudrait que je coupe, notamment là, pendant cette période de vacances, il faut que je trouve le moyen de couper. Et là, on fait vraiment appel à notre côté discipline. Parce que comme on travaille à la maison, il y a personne qui va nous dire, c'est à telle heure, tu finis à telle heure. On peut y être, sans limite. Et au contraire, c'est ce qui va faire qu'on va tomber dans, dans ce qu'on n'aime pas, en fait.
Ouais.
Et j'arrive pas forcément à me déconnecter tout le temps, puisque c'est sur mon téléphone essentiellement, et le téléphone, ben, on l'utilise aussi pour sa vie personnelle. Mais des fois, voilà, je me force, on va dire, comme ce matin, j'ai été, mais pas trop. Voilà. Ouais, j'arrive plus facilement à couper pour mon compte perso, par contre. Hein.
D'accord.
Mon compte perso, mais pour les clientes, mmh. je me dis, voilà, on compte sur moi, je ne peux pas non plus faire l'impasse, et on sait bien que les réseaux sociaux, on ne peut jamais totalement faire l'impasse.
Mmh. Et tu as quand même des vacances, hein. Tu peux poser des vacances quand tu es CM en disant du 1er au 15 août, je suis en vacances.
Oui, on peut poser des vacances parce qu'en fait, on a la possibilité d'enregistrer en avance bah, tout le contenu en fait, qu'on va publier, que ça soit les posts ou même les stories. Okay. Ou tout simplement, on échange avec l'entrepreneur qui est aussi un humain comme nous, qui sait qu'à un moment donné, on va avoir besoin de couper, bah, qu'il puisse prendre le relais. On lui fournit quand même un maximum d'informations, un maximum de support. Comme ça, moi, je dis... tant qu'on reste transparent et qu'on se dit les choses, je pense qu'à un moment donné, on peut comprendre que l'autre ait besoin de souffler
Bien sûr.
Tranquillement.
Ouais. Ok. Voilà. Okay, super. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Merci Noréline pour tout ce partage. Juste dernière petite question. Je pense que certaines personnes se posent déjà la question. CM, on peut être salarié ou
freelance.
Alors, j'imagine freelance ou salarié dans ce sens-là, peut-être qu'on est souvent freelance, mais ça arrive d'être salarié en tant que community manager.
Oui,
c'est possible.
Ça arrive d'être salarié pour les grandes entreprises, on va dire, ils ont toute leur équipe autour de la communication. Okay. Donc généralement, ils ont des CM salariés. Hein.
OK. Donc pour celles qui se disent ce métier m'intéresse mais je n'ai pas du tout envie d'être à mon compte, je vais être salarié. C'est possible. Et est-ce que c'est possible d'être salarié du lundi au vendredi de 9h à 17h ou est-ce que pour le coup c'est différent en termes de rythme?
Moi, je pense que c'est possible d'être salarié vraiment avec des horaires, puisque, et même en plus en faisant du télétravail,
ouais.
parce que par rapport à ce qu'on fait, on n'est pas toujours obligé d'être sur site. Moi, je sais que j'avais postulé pour être CM en entreprise. Je crois que j'avais peut-être 2 journées de télétravail, mais ça n'a pas abouti, hein, parce que moi, ça me convenait pas. Moi, je voulais vraiment être à 100% chez moi.
Ouais.
Et du coup, eux, ils proposaient vraiment cette alternance entreprise et domicile.
OK. Ouais, donc c'est possible finalement.
Oui, c'est possible.
OK, super. Bah, trop chouette. Bah, écoute, merci beaucoup, Noréline, pour tout ça. Et tu as autre chose à ajouter?
Merci.
Peut-être des questions que je ne t'aurais pas posées, qu'on pose souvent sur le métier de CM? On a parlé pas mal de choses.
On pourrait me demander, est-ce que c'est compliqué d'avoir des clients?
Oui.
Ou quel salaire on peut espérer en tant que community manager? Parce que ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on sort d'une stabilité. Bon, là, c'est pas mon cas, puisque je travaille encore. Donc, je conserve, on va dire, ce filet de sécurité. Par les temps qui courent, je pouvais pas non plus me permettre de complètement abandonner mon travail, puisque j'ai d'autres projets personnels derrière. Mais on peut vraiment dépasser son salaire, on va dire, qu'on avait en tant que professionnel de santé. Hein. Il suffit d'avoir une bonne stratégie de communication, d'être toujours présent, de communiquer, d'aller à la rencontre des personnes, d'interagir avec eux, de prospecter, tout simplement prospecter. Et ensuite, bah, les clients, une fois qu'on a vraiment cette bonne stratégie de communication, vraiment qu'on parle à notre cible et qu'on n'est pas rigide, bah, en fait, on peut avoir des clients. Moi, j'ai eu beaucoup de clients, j'ai fait du community management simple, j'ai fait du coaching parce qu'il y a ceux qui veulent juste apprendre, mais pas forcément déléguer. En fait, il faut vraiment créer des offres qui répondent aux besoins. Et en fait, pas que ça va venir tout seul. On a toujours un travail à faire dessus. Moi, je sais que parfois, j'ai tourné au même salaire que je tournais en tant qu'infirmière. Donc, je ne vais pas dire spécialement, on va dire, on n'aime pas trop dire les revenus, mais on connaît nos grilles de salaire et en fait, on peut complètement s'en sortir. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas abandonner complètement mon travail d'infirmière par sécurité pure et pour mes projets. Mais c'est complètement faisable. Je connais plein de CM qui étaient dans d'autres milieux qui, au bout de 3-4 mois, ben, en fait, elles ont remplacé complètement puis dépassé le salaire qu'elles avaient. ça peut aller jusqu'à plus de 5000 euros de revenus quand on a vraiment un truc bien ficelé, qu'on peut mettre en place des formations, des groupes de formation, des coachings en groupe, des coachings individuels. On peut faire des ateliers en ligne ou en présentiel. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mmh. Mais il faut aussi avoir cette discipline, cette structure et le temps.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est canon. Bah, c'est intéressant, c'est ce que tu disais un petit peu au début, c'est le côté où quand tu as ton compte, en fait, tu es à ton compte, donc tu n'as personne qui va venir te dire alors là, pour dans une semaine, il faut que tu finisses ça. Enfin, je pense que, en tout cas, pour l'aspect personnel, je veux dire, ça doit être difficile, en fait, je pense, de se mettre à chaque fois des échéances. Après, je pense qu'avec tes clients, du coup, forcément, tu as des échéances. J'imagine que
oui,
tu vas
pas le voir.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même une certaine rigueur, ouais, je pense, dans l'organisation, quoi. Mmh. Donc,
oui, c'est ça. Donc, notre agenda, c'est notre meilleur ami. Hein. On note tout. On a toujours des to-do list avec des tâches à accomplir par jour. C'est vrai qu'au début, moi, j'avais tendance à être frustrée ou à culpabiliser de ne pas avoir réussi à tout mettre en place. Mais au fur et à mesure, je pense que ça fait partie du parcours de la réflexion qu'on a en tant qu'auto-entrepreneur à son compte. Ben, en fait, que non, en fait, on n'a pas quitté une chose qui nous mettait de la pression pour encore s'en rajouter. Non, non, non.
Ouais.
Donc, on s'organise. L'organisation, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un muscle, ça se travaille.
Bien sûr.
Donc, on y travaille toujours.
Trop chouette. Bah, écoute, merci beaucoup, Laureline, pour ton partage. C'est vraiment intéressant d'avoir un retour dans ce sens-là et d'avoir une idée de métier qui est complètement différente, en tout cas, de notre métier infirmière. Donc, c'est chouette. Merci pour ce partage. Je mettrai du coup le lien en dessous vers ton compte Instagram pour ceux qui veulent aller... Aller voir celles qui ont besoin d'une CM également, celles qui veulent voir à quoi ça ressemble aussi un petit peu le quotidien, parce que je vois que tu fais souvent des stories où tu montres un peu ton quotidien, ton temps du jour, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de voir un peu le backstage, on va dire, des entrepreneurs.
Exactement.
Donc, c'est chouette.
Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que tout est toujours rose. On essaie de montrer un petit peu de tout, comment on travaille avec les clients, quand on se déplace, comment ça se passe aussi à la maison, même si je pourrais en dire beaucoup. Plus, il y a toute la partie administrative, les devis, les factures, enfin tout ce qu'on n'a pas appris à faire du tout, nous, de base. Donc, mais il y a beaucoup d'outils pour nous faciliter la vie, en gros. Voilà.
Super.
Bah, écoute, je te remercie aussi pour cet entretien. Franchement, c'était une belle découverte aussi, ton compte. Donc, voilà.
Avec plaisir. Merci. Merci à toi, Noréline. Et du coup, à très bientôt. À très vite, j'espère.
À très vite.
On va suivre de près ton aventure de CM, d'infirmière devenue CM. Donc... Donc merci à toi et puis écoute du coup à très vite.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Cet épisode se termine. Tu souhaites en savoir plus sur Noréline, n'hésite pas à la retrouver sur Instagram. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me proposer des sujets à aborder, n'hésite pas. Tu peux le faire en m'écrivant à bonjour@charlottecat.fr ou via Instagram charlottecat-fr. Je suis preneuse de tous les feedbacks, alors vraiment n'hésite pas. Si l'épisode t'a plu, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager et de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour notre prochain épisode.